France Musique. Musicopolis.
juin 1986, Mansfield, Massachusetts. Le 13 juin 1986 est une grande date pour la petite ville de Mansfield dans le Massachusetts aux États-Unis. Cette bourgade d'environ 15 000 habitants s'apprête à inaugurer sur son sol un grand théâtre de plein air qui peut accueillir 12 000 personnes. La situation de ce Great Woods Performing Arts Center est idéale à la campagne, mais pas trop loin de Boston ni de Providence. Ce nouveau lieu a été conçu pour devenir la résidence d'été de l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, dont le directeur musical est alors Michael Tilson Thomas. Pour le concert d'inauguration, le chef a commandé une fanfare à l'un des compositeurs les plus joués de l'époque, John Adams. Pour l'inauguration de Great Woods, ce nouveau théâtre de plein air dans le Massachusetts, John Adams a donc composé une fanfare. Il s'est inspiré d'une aventure qu'il a vécue récemment. Il est monté dans la voiture de course italienne de l'un de ses amis et il ne s'est pas encore remis de cette expérience terrifiante. Il l'a encore très présente à l'esprit au moment où il commence à travailler sur cette commande. Le résultat va être « Short Ride in a Fast Machine ». Court trajet dans une machine rapide, qui évoque cette course à la fois très excitante et tout à fait effrayante. Le 13 juin 1986, Short Ride in a Fast Machine, court trajet dans un véhicule rapide, a commencé sa brillante carrière, jamais démentie depuis. Une œuvre qui se caractérise par un tempo rapide et une pulsation sans cesse présente. Cette pulsation a été lancée au début par le woodblock aigu et à l'instant, elle vient d'être confiée au woodblock grave, pendant que les basses s'agitent dans une sorte de danse éléphantesque. Cette musique, qui paraît agitée, est surtout extrêmement régulière. La régularité étant assurée par les répétitions de notes, de motifs mélodiques et de motifs rythmiques. Et néanmoins, le flux musical évolue, parfois insensiblement, parfois grâce à des ruptures assez brusques. Environ aux deux tiers de la pièce, qui dure un peu plus de 4 minutes et que nous écouterons en entier à la fin de l'émission, on retrouve pour quelques instants l'atmosphère et le rythme du début. Juste après, une véritable fanfare de trompette, comme un choral, va se faire entendre comme flottant au-dessus de la mer rythmique. C'est peut-être à présent qu'on pourrait citer ces vers du poète américain Walt Whitman. « Écoute, c'est la trompette sauvage de quelque étrange musicien. Ses accents flottent dans l'air, capricieuse mélodie, vibration dans le noir. La fanfare ayant été entendue, l'œuvre a atteint son but et le compositeur n'a plus qu'à conclure. La culture états-unienne est friande de ces œuvres qui peuvent aisément introduire cérémonies et célébrations ou bien soutenir marches ou défilés. On pourrait remonter facilement aux marches de John Philip Sousa. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, le chef d'orchestre Eugène Goossens décide de commander à plusieurs compositeurs une œuvre patriotique. Aaron Copland raconte dans son autobiographie « Eugène Goossens, chef de l'orchestre symphonique de Cincinnati, m'avait écrit à propos d'une idée qu'il voulait concrétiser pour la saison de concert 1942-43. Durant la Première Guerre mondiale, il avait demandé au compositeur britannique de composer une fanfare qui devait être jouée au début de chaque concert orchestral. Ce fut un tel succès qu'il pensa reproduire l'expérience lors de la Deuxième Guerre mondiale avec les compositeurs américains. On a oublié depuis la plupart des œuvres écrites pour l'occasion, sauf justement celle de Copland, intitulée « Fanfare pour l'homme ordinaire ». Cette fanfare d'Aaron Copland est devenue une sorte de symbole musical du patriotisme états-unien. Si elle utilise une véritable formation de fanfare avec des cors, trompettes, trombones et tuba, elle peut néanmoins évoquer une autre œuvre américaine plus ancienne, celle de Charles Ives, The Unanswered Question, La question sans réponse, œuvre de 1908, avec son unique trompette flottant au-dessus des cordes. Cette trompette de Charles Ives est peut-être une lointaine ancêtre des cuivres qu'on entend dans la fanfare de Copland ou dans celle de John Adams. Mais on trouve chez Ives d'autres éléments qui évoquent aussi cet esprit américain des fanfares de Copland et Adams. La musique de marche ou de défilé, on l'entend par exemple dans Three Places in New England, trois lieux de Nouvelle-Angleterre, et notamment dans la deuxième pièce qui évoque un rassemblement dans un haut lieu de la guerre de sécession un 4 juillet, jour de la fête nationale, avec son atmosphère de fête et ses mélanges de sons et de musiques divers. Bien sûr, la musique de Charles Ives fait partie de la culture de tout musicien américain du XXe siècle, tout musicien de formation classique, du moins, comme John Adams. John Adams, né en 1947, a étudié au Conservatoire de Nouvelle-Angleterre à Boston, puis à l'Université Harvard, où il a travaillé sur les techniques d'écriture très élaborées à l'européenne. En plus de connaître Ives, il a étudié tous les compositeurs d'avant-garde, depuis Webern jusqu'à Boulez, en passant par Stockhausen. Mais alors qu'il est un jeune étudiant zélé, auquel on apprend que toute musique procède de Schoenberg ou de Stravinsky, alors que sa formation met en avant comme modèle l'avant-garde européenne, John Adams se souvient de la musique qui l'a beaucoup marqué dans son enfance, les chansons américaines, le jazz et en particulier Duke Ellington. John Adams a dans l'oreille les musiques de jazz qu'il a entendues avec ses parents. Il a même eu l'occasion de s'asseoir sur le tabouret de piano à côté de Duke Ellington lors d'un concert dansant. Mais surtout, lorsqu'il sort de l'université après ses cours, il entend la musique rock qui est en plein développement. Et il se demande quel rapport peuvent bien avoir toutes ces musiques qu'il étudie dans le laboratoire du département de musique de Harvard avec ce qu'il entend dans la rue. Toutes ces musiques qui se télescopent, les populaires, les savantes, celles qu'on entend dans la rue, celles qu'on entend dans les concerts confidentiels de l'université, John Adams n'en peut plus. Il n'arrive pas à trouver son propre style. Il part pour la côte ouest des États-Unis, vers la Californie, où les mœurs musicales sont plus souples qu'en Nouvelle-Angleterre. Avant de partir, il avait entendu en disque la musique de Terry Riley. Il va avoir l'occasion, une fois à l'ouest, de découvrir plus avant ce qu'on appelle déjà la musique minimaliste. Il s'y met à son tour. Et après plusieurs essais, il lui semble qu'il a découvert enfin sa propre voix. Et il appose enfin le qualificatif d'opus 1 à une partition. C'est en 1977, il a juste 30 ans, il appelle sa pièce « Phrygian Gates ». Comme les pièces des compositeurs de la génération qui a précédé John Adams, en particulier Riley, Reich et Glass, Phrygian Gates est écrit suivant les principes de la musique minimaliste, notamment des répétitions de motifs, des ostinatos, des boucles et une conception du temps allongée, où les changements se font de manière progressive. Désormais, John Adams a trouvé son style et il va le peaufiner, le perfectionner et le nourrir de ce qu'il apprécie avant tout dans la musique. Une harmonie riche et qui change souvent. En 1979, il compose sa première œuvre pour orchestre qu'il joue avec l'ensemble du Conservatoire de San Francisco, dans lequel il enseigne. Il lui a donné un nom très minimaliste, « Common Tones in Simple Time », sons ordinaires en mesure simple. John Adams a la chance qu'Edo De Waart, le chef de l'orchestre de San Francisco, entende sa pièce « Common Tones in Simple Time ». Bientôt, Adams va recevoir une commande. Il doit composer une œuvre qui sera jouée lors de la saison inaugurale de la nouvelle salle de concert de l'orchestre. Ce sera « Harmonium, avec chœur », sur des poèmes de John Donne et d'Emily Dickinson. C'est un risque que prend le chef, mais la réussite ira bien au-delà de leurs espérances à tous. Quasiment du jour au lendemain, après la première de Harmonium, John Adams va se trouver propulsé sur le devant de la scène musicale états-unienne. À partir de ce moment, les partitions vont se succéder et les rencontres et les commandes. Chaque nouvelle œuvre est une manière pour lui de renouveler son style. Et bientôt, ce style sera très éloigné du minimalisme de ses prédécesseurs. Certains commentateurs l'appellent « post-minimaliste ». Mais pour sa part, Adams déclare que sa musique, qui intègre toutes sortes d'influences, est même post-style. Et en 1986, donc, alors qu'il est en pleine composition de son opéra Nixon in China, Adams compose « Short Ride in a Fast Machine ». On y reconnaît ce mélange typique du compositeur, d'éléments venus de la musique minimaliste, d'un raffinement orchestral venu de la grande tradition symphonique et d'une énergie rythmique typique de la musique populaire américaine.
Thank you.
Short Ride in a Fast Machine de John Adams, l'orchestre symphonique de San Francisco dirigé par Michael Tilson Thomas. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Pierre Monteil pour le mixage et Charlotte Landru-Chandès et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.